avec Benoît Marchal.
Bienvenue pour le 92e épisode de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Trois segments dans cet épisode, comme d'habitude. Le premier segment, l'édito, qui est consacré bien évidemment à notre enregistrement de la centième, qui arrive bientôt. Le deuxième segment, qui est la suite de la rencontre avec Henri Rossier. Et le troisième segment, avec vos commentaires et vos réactions. Notez l'adresse du blog, www.déclencheur.com. C'est là que vous pourrez vous abonner, et en support de nombreuses méthodes d'abonnement, l'email, iTunes, l'abonnement RSS. C'est là également que vous pourrez retrouver tous les liens de l'épisode, poster un commentaire, une réaction, ou lire les commentaires et réactions d'autres auditeurs. Premier segment, l'édito. L'édito qui est bien entendu consacré à l'enregistrement, et on y sera bientôt, de la centième de Déclencheur. La date retenue est le 9 décembre, c'est un dimanche. Vous êtes tous conviés à la salle Conférence Hermès, c'est métro Maison Blanche. Et c'est l'occasion de voir comment on réalise, comment on enregistre le podcast. Pour l'occasion, on réalisera également une vidéo. On servira un petit cocktail après l'enregistrement, donc ce sera aussi l'occasion de discuter entre nous de la photo, de discuter de toutes ces choses. Il y a pas mal de sites et de blogs photos qui relaient l'événement et qui ont promis d'être là. Donc je crois que si vous suivez la photo sur Internet, ça vaudra vraiment la peine de venir nous rejoindre. Et je veux remercier très chaleureusement nos trois partenaires sans qui ce ne serait pas possible d'organiser cet événement en public. MissNumérique.com.
MissNumérique.com, spécialiste du matériel photo à prix discount. Service pro en prime.
QuestionPhoto.com.
QuestionPhoto.com, le magazine web des techniques photo animé par Volker Gilbert. Et auquel contribue Vincent Luc qui sort son nouveau livre le 10 décembre, Maîtriser le Canon EOS 40D.
Et enfin ProfilICC.com qui nous a rejoints.
ProfilICC.com, optimisation des couleurs de l'image et du rendu des tirages.
Et bien évidemment, toute l'équipe de Déclencheur qui s'est vraiment mobilisée pour cette centième. Merci les gars, votre soutien est vraiment précieux. Donc on vous attend nombreux le 9 décembre. Tous les détails, le formulaire d'inscription sur le blog www.déclencheur.com. Deuxième segment, on continue la rencontre avec Henri Rossier. Alors on va complètement changer de ton. On ne va plus du tout parler d'accessoires photo pour le studio, mais on va faire connaissance avec Henri. Il a une expérience de la photo qui démarre avec les plaques en finale, et des solutions très bricolées, vous allez l'entendre, et qui continue maintenant aujourd'hui, Henri est à la retraite, mais il continue à photographier, il photographie en numérique. Et c'est vraiment passionnant d'entendre ce parcours dans la photo, qui s'est particulièrement développé dans des années que beaucoup regardent comme étant un des âges d'or de la photographie. Pourquoi on vous propose ce deuxième épisode? Parce que l'interview que j'ai enregistrée avec Henri, elle a duré pratiquement 2 heures. Le montage a été réalisé par Baptiste. Assez vite, il m'a envoyé un email en me disant « Écoute, on ne peut pas réduire ça à 20 minutes. Il y a tellement de choses qui sont intéressantes. Il faut qu'on fasse un deuxième épisode dessus. » Et le voilà. C'est un épisode atypique, mais moi, dans son genre, je le trouve passionnant et j'espère qu'il va vous plaire. Henri, bonjour.
Oui, bonjour Benoît.
J'ai le grand plaisir de recevoir Henri Rossier aujourd'hui. Alors Henri, raconte-nous, comment est-ce que tu t'es lancé dans la photo?
Mon père faisait déjà de la photo, il avait un appareil à plaques. Et puis, je me souviens qu'il faisait des agrandissements. Il bricolait avec une carafe d'eau pour faire le condensateur, il mettait une ampoule derrière. On mettait le papier contre le mur, on le punaisait contre le mur, le soir, la nuit, comme ça quand la chambre était noire. Et puis après, il développait ça dans la salle de bain. Alors j'avais pris le goût de la photo un peu avec ça. C'était assez drôle parce que à l'époque, les ampoules, la marque de l'ampoule était imprimée au sommet de l'ampoule. Et puis cette marque, on la revoyait sur l'agrandissement photo, Krypton. Alors j'ai toujours eu le goût de la photo. Avec mon frère, on a toujours eu un petit appareil. Je me souviens d'un appareil que j'avais beaucoup aimé, c'était le Photax. Un truc en plastique avec un grand... grande vis hélicoïdale qui se dévissait devant. Le dos était bombé, c'est-à-dire l'aberration géométrique, elle était corrigée par la courbure du film, du moins dans un sens, elle était corrigée. Mmh. Alors voilà, je suis parti en Espagne, j'avais un Retina, un petit appareil. Et j'ai vendu mes premières photos, j'avais fait une magnifique série. Il y avait une fête en Espagne, la fête du Christ-Roi, où ils font des grandes fresques, tout avec des pétales de fleurs dans les rues, c'est très connu ça. J'ai fait une belle série, j'étais typographe à l'époque, je travaillais dans l'imprimerie. Mon patron, qui éditait des calendriers, m'a acheté ces photos. C'est la première fois que j'ai vendu des photos. Et puis je me souviens, je me suis fait faire un complet sur mesure, je suis retourné en Europe comme un caballero. J'étais tout content d'avoir vendu ces photos. Voilà, j'ai toujours bien aimé la photo. Puis étant dans les arts graphiques, je me suis toujours intéressé aux arts graphiques, à la peinture, tout ça. Et puis un jour, j'ai décidé de partir au Canada pour apprendre l'anglais. Et je suis parti avec un Leica et un Rolleiflex, un Leica M3. J'ai fait des photos de Toronto parce que je pensais pas y rester très longtemps à Toronto. Je voulais enfin faire le tour du monde à peu près. Et puis j'ai fait ces photos en noir blanc. J'ai construit un agrandisseur dans la cave où je louais une chambre dans une maison. Je les ai montrées à un éditeur. Puis tout de suite, il m'a dit « Ah oui, c'est formidable. » Ça n'existait pas à l'époque. C'était en 1960. Et à l'époque, les photographes de presse, ils travaillaient encore avec les gros appareils Graflex, vous savez, le gros flash à ampoule, tout ça. Le petit format était encore pas très, surtout là-bas. Hein. J'ai montré ces photos à un éditeur, Macmillan of Canada. Ils ont tout de suite été emballés par l'affaire. Puis j'ai demandé qu'un écrivain, un journaliste qui était très connu, s'il voulait écrire le texte. Puis lui aussi a été emballé, mais il m'a dit qu'il manque deux, trois sujets. Alors j'ai complété le bouquin sur ses conseils. Et puis avant même que le livre sorte de presse, on en a parlé dans les milieux de l'édition, tout ça. Un jour, le Star Weekly, qui était le plus grand hebdomadaire, c'était le supplément hebdomadaire du Toronto Star, me téléphone et il me donne un reportage sur Frank Mahovlich. Puis j'ai dit, c'est qui Frank Mahovlich? C'était le plus grand joueur de hockey du Canada. Et moi, j'étais même pas au courant. Enfin, j'ai fait un reportage sur lui. On voulait montrer comment est-ce qu'il se déplaçait sur la glace, tout ça. Et puis après, régulièrement, Star Weekly me donnait ce qu'on appelait des photo stories à faire. Alors j'ai lâché mon métier, j'étais typographe. Dans la phototypographie, c'était le début de la phototypographie. On utilisait des grosses caméras, on faisait des films de, je sais pas, 50 par 70 centimètres. Alors j'ai lâché ce métier pour faire des reportages. Un typographe là-bas à l'époque, est-ce que je gagnais 120$ par semaine, alors que le Toronto Star me payait 100$ par jour pour les... Bon, je n'ai pas tous les jours du travail, mais si j'avais 2 jours de reportage par semaine, ça me suffisait.
Oui. Évidemment, oui, alors, c'est une différence.
Et puis ça s'est bien passé, alors on m'a envoyé à gauche, à droite. Puis quand le livre est sorti, j'ai été connu, on m'a interviewé à la télévision, j'ai fait 3 émissions de télévision, j'ai fait des photos sur des sujets, Toronto pour les jeunes, Toronto qui grandit, New City, tout ça. Et puis moi, je faisais des photos, puis après, eux, ils les passaient devant la caméra, hein, comme ça. Donc, j'étais très connu, on m'invitait comme jury dans les concours, ce que j'aimais pas beaucoup. J'aime pas beaucoup discuter de composition, de choses comme ça. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. On vous dit, faut jamais mettre le sujet au milieu. Moi, je dis que c'est pas vrai. Si on a envie de mettre le sujet au milieu, on est au milieu, quoi. Moi, je dis qu'il n'y a pas de règle. La règle d'or, tout ça que j'ai étudié en étant typographe, graphiste, bien joli de la connaître, mais il ne faut pas systématiquement l'appliquer partout. Au contraire, un petit déséquilibre, c'est peut-être bien.
On avait une discussion récemment avec Peter Yann Louis, qui est un photographe parisien,
oui.
Et qui me disait qu'en fait, il y avait une grande évolution dans la photo, justement, parce qu'on avait intégrer ces règles et puis maintenant on se permettait de les dépasser quand c'était
ouais.
Ça avait du sens quoi, il faut les connaître parce que c'est un
point
de départ.
Il faut les connaître mais il faut les oublier.
Voilà.
Comme la technique, il faut connaître la technique mais il faut l'oublier.
Il faut
que ça devienne automatique. Alors j'allais dans ces jurys, on me demandait, mais vous voyez, Monsieur Rossier, le peuplier qui est à droite, vous pensez pas qu'il devrait être un peu plus à gauche? Moi je devenais fou quand on me disait des choses comme ça. Enfin c'était bien, j'étais connu. Il y avait juste un petit problème, c'est que moi j'ai fait mon livre sur Toronto, j'ai vu Toronto comme il était, c'était assez sombre et tous ces bâtiments en briques, maintenant c'est une ville ultra moderne, mais c'était assez sombre et ça se répercute dans mes images. Alors on m'avait catalogué un peu comme le photographe des... C'était à la mode à l'époque, les photos poubelles, vous savez, tout noir, tout...
tristounette.
Moi c'est tout le contraire, j'adore ce qui est joli, ce qui est beau, ça fait que je me suis tourné... assez instinctivement vers la publicité. J'aimais bien photographier des jolies filles, j'ai fait de la mode, plus tard pour Harper's Bazaar, mais j'ai fait surtout des cosmétiques. Puis j'ai un studio qui m'a engagé, un studio d'art qui faisait la photographie commerciale. Et c'est là que j'ai commencé à travailler en chambre professionnelle. Ça m'a pas posé de problème, puisque comme phototypographe, j'utilisais des caméras de 50-70 cm de format. C'est pas un gros problème de passer. On faisait beaucoup en 20-25 à l'époque, en 8-10 inches, hein, les hectachromes pour la publicité. Et ce qui était drôle, c'était qu'ils avaient tous des caméras en bois, ces chambres professionnelles en bois américaines, Dierdorf. Elles étaient fantastiques. Et moi, il y avait une autre chambre qui était disponible, c'était une Linhof allemande. De gros trucs, un peu comme la Cynar sur tube télescopique, mais très lourd. Puis moi, je me suis dit, je vais prendre ça. Il y avait 3-4 photographes dans ce studio. Ils ont tous rigolé, ils m'ont dit, bah oui, vas-y, bonne chance. c'était impossible à travailler avec. Parce que ces chambres professionnelles, elles vibrent. Il y a toujours une vis au milieu pour mettre sur le pied. Hein, pour, il en faudrait quatre, et puis c'est là qu'il y a cette vibration. Alors j'avais un gros pied à colonne, vous savez, qui monte et qui descend, qui est en contrepoids, tout ça. Et puis chaque fois que le tram passait dans la rue à côté, ça faisait vibrer la caméra. Et puis elle vibrait au moins pendant 15 minutes. Il y avait un tram toutes les 10 minutes, donc c'était pratiquement impossible de faire une photo. Mais mes collègues se foutaient de moi. Pour finir, j'ai fait comme eux, j'ai choisi une Dierdorf en bois. C'est vraiment des... Je les recommande. Bon, elles sont assez chères, mais elles sont encore construites. C'est très joli, c'est en acajou, avec des ferrures en laiton. C'est, ils les font encore comme ça. La 4-5 inch qui fait triple tirage, hein, eh bien, une fois qu'elle est pliée... Elle n'est pas plus grosse qu'un petit Larousse. Dierdorf, elle est fantastique, cette appareil. On ne le trouve pas en Europe. Je me suis marié à Toronto. On s'est dit avec mon épouse, on va partir à New York parce que c'était la ville tentaculaire.
On est vers quelle année, là?
64. Donc, je suis arrivé à Toronto en 58. À partir de 60-61, j'ai travaillé comme photographe jusqu'en 64 à Toronto. Puis, une fois, alors j'ai eu la chance, parce que bon, j'étais connu quand même pour être un bon technicien au magazine, la Star Weekly. Quand le Canada a lancé son premier satellite, c'était la NASA qui l'a lancé pour le Canada. C'est un satellite de météorologie qui s'appelait Alouette. Je suis allé le photographier dans les laboratoires où il avait été construit. Star Weekly, c'est moi qu'ils ont choisi pour m'envoyer en Californie pour photographier le lancement. Oui. Et c'était quand même quelque chose d'assez... Je n'ai jamais photographié de lancement. C'était très difficile, on n'avait pas de spotmètre pour mesurer la lumière. Mmh. Alors on est parti dans un avion Canadian Air Force avec des membres du gouvernement, les scientifiques qui ont travaillé sur ce projet. Et puis on arrive là-bas, on ne pouvait pas aller à moins de 2 000 1/4 du lancement. Puis c'était une petite fusée, elle faisait 75 mètres de haut. Alors j'avais calculé tout ça, c'est très simple, hein, c'est la loi des triangles semblables. J'ai dit au rédacteur de Star Weekly, voilà, mais si c'est comme ça, l'image, elle aura 7 mm sur la diapositive. Il m'a prêté un objectif de 1 mètre de long pour la seule blade que les photographes de presse du Toronto Star avaient, vous voyez. Mm-hmm. Il était impressionné que je puisse lui dire, mais c'est, au fond, c'est tout simple.
C'est une règle de calcul.
Ouais, c'est les triangles semblables, quoi. Mm-hmm. Alors, on est parti là-bas, et puis c'était la confusion totale, on était là. La première nuit, il n'est pas parti, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Deuxième nuit, puis on allait toutes les nuits. On était à côté du groupe de communication de la NASA avec un gros génératrice qui faisait un bruit, on n'arrivait pas à se parler et tout. On est resté 10 jours. Pour finir, il est quand même parti. Ça devient tout blanc parce qu'ils remplissent avec l'hydrogène, tout ça. Bon, on nous avait décrit un peu ce qui allait se passer. Mais moi, j'avais pas d'autre moyen de juger le temps de pause que comparer. J'ai fait beaucoup de photos de ballet. Alors je me dis, ça c'est comme une ballerine quand elle est dans un spot lumineux. Alors je me souvenais des chiffres. J'ai dû régler comme ça. Vous savez, l'histoire, on entend 10, 9, 8, 0, boum. Ben, ça s'est pas passé comme ça. Tout d'un coup, le truc est parti. J'avais deux appareils. J'avais mon Leica avec un 200 mm sur trépied, la Hasselblad avec le 1000 mm. J'ai appuyé sur la Hasselblad, sur le Leica, un tour de manivelle. Puis il était loin, c'est parti très très vite. Hein. Mm-hmm. Contrairement à ce qu'on pense, parce que les films qu'ils ont pris par la NASA pour étudier la formation des flammes, alors elles sont prises au ralenti. Alors, les départs satellites, pratiquement, les voient tout au ralenti, en général. Alors, c'est parti très vite, mais enfin, j'ai quand même réussi à avoir cette photo. Elle a paru en couverture du Star Weekly. J'étais très, très fier. J'avais vraiment peur, là. J'aurais bien voulu avoir un numérique pour voir tout de suite le reste. Mais voilà. Alors, encore une petite anecdote. Quand on est rentré, alors c'était 7 heures du matin quand... On avait vu finir rassembler nos bagages. On avait bien vu pendant la nuit du Californian Burgundy. Et moi, je vois mon collègue du Star Weekly qui marchait devant moi avec sa valise dans une main, son galon de vin Californian Burgundy dans l'autre. Il titubait comme ça. Et de chaque côté, il y a les soldats de la US Air Force qui vous saluaient. On monte dans l'avion comme ça. Et moi, je me trouve assis à côté d'un chef de projet, le scientifique qui était responsable du projet. Il me dit, t'as un drôle d'accent, tu viens d'où? Je lui dis, moi je viens de Suisse. Ah, mais moi j'ai étudié à Berne. Il y a une chanson qu'on chantait, la Madelon, tu sais, la Madelon, viens. Tu connais? Ouais, alors, moi, je commence à chanter la Madelon. Tout le monde se met à brailler, les bandes du gouvernement, les militaires, tout, puis on continue à boire du champagne, complètement sous, dans un avion de la Royal Canadian Air Force qui nous ramenait à Ottawa. C'était vraiment extraordinaire. Alors après, je suis parti à New York, et puis là, bon, mon épouse a tout de suite trouvé du travail, elle était assistante dentaire. Moi, j'ai mis un petit moment, mais j'ai trouvé un studio, un collègue qui me soulouait son studio, enfin, je le partageais avec lui. Ce qu'il fallait, c'était trouver un représentant à New York, parce que sans représentant, on ne fait rien. Et puis, ma difficulté, c'est que je faisais un peu de tous les représentants, soit ils représentent un grand photographe, comme Richard Avedon ou des gens comme ça, et puis ils ne représentent que lui, parce que c'est des photographes qui tournent sur des millions de dollars par année, leur chiffre d'affaires, hein. Là, ils en représentent deux, mais il faut que ce soit deux photographes complémentaires. Un qui fait de la mode, et l'autre qui fait peut-être de la photo alimentaire, par exemple. Moi, je faisais un peu de tout. Alors, j'ai trouvé un représentant qui représentait un studio d'art. Fichement, ils avaient besoin d'un photographe qui puisse faire de la mode, un peu de mode. J'ai fait pour les machines à coups de Saint-Gerre, j'ai fait du cosmétique, beaucoup pour revendre, j'ai fait de l'alimentaire, des photos de croissanterie, des choses comme ça. Beaucoup de photos illustratives, reportages mis en scène pour des lignes aériennes, Eastern Airlines, et enfin, j'ai fait un tas de trucs comme ça. Alors, ça allait bien. Donc, sitôt que j'ai trouvé ce représentant, j'ai bien gagné ma vie. Là, c'était formidable. Et puis, tout d'un coup, le représentant, il a arrêté ça parce qu'il a développé une station de ski. Mais alors, les mêmes clients qui me donnaient du travail avant, ils disaient, je n'ai plus rien. C'est assez drôle. J'ai dû me refaire une clientèle. C'était devenu dur. Puis, mon fils est né, entre-temps. Et puis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait là? New York, c'est bien joli, mais point de vue santé, c'est pas fameux. Mais c'est une ville formidable, à New York. Alors, on s'est dit, on revient à Genève. Et puis, j'ai pas voulu travailler tout de suite comme photographe. J'ai trouvé une place d'art directeur dans une agence de publicité parce que je faisais du graphisme aussi. J'ai travaillé 8 ans comme ça, puis après, je me suis remis à mon compte comme photographe parce que je suis fait pour travailler à mon compte. Je supporte pas de recevoir des ordres de patron. Alors, je me suis remis à mon compte et puis j'ai acheté du matériel. Alors là, évidemment, à Genève, c'était plus tellement le reportage, c'était surtout les objets, les montres, la bijouterie.
Tu as senti une différence entre le travail américain et le travail européen?
Ah oui, oui. Je peux te donner un bon exemple. Quand je suis revenu, je suis allé voir mes anciens copains qui étaient tous un peu d'imprimerie, les graphistes, les peintres, comme ça. Et puis, quelques temps après, il y a un copain qui me téléphone et qui me dit, dis donc, Henri, t'avais pas fait les photos d'une fille qui était bleue, qui portait des bijoux, mais la fille était bleue, mais les bijoux, ils étaient couleur normale. Je dis non, j'ai jamais fait ça. Ah, il me semble que j'avais vu quelque chose comme ça, mais tu ferais ça comment? Avec des filtres, avec, je dis non, c'est simple, c'est quelque chose que j'ai appris aux États-Unis. Tu prends la fille, tu la peins en bleu, tu mets les bijoux, puis tu photographies. C'est aussi simple que ça. Eh bien, ça vient pas, ça, aux Suisses. Peut-être maintenant, oui. Il y a une évolution, une mentalité qui est bien différente, beaucoup plus pragmatique, voyez. On se masturbe l'esprit chez nous, on veut faire tout de la chambre noire, des fils, des machins. Non, prenez le modèle ou le peignez en bleu, et puis on photographie, puis c'est bon. Ça, c'est ce que j'ai appris là-bas.
J'ai l'impression à t'entendre que, à l'époque où tu t'es lancé dans la photo, c'était à la fois plus simple et plus compliqué. Plus compliqué par rapport au matériel,
ouais.
Clairement des compétences différentes. Ce que tu disais à l'instant avec la fusée, c'était plus un numérique aurait simplifié les choses. Et puis en même temps, plus simple dans le sens où, en ayant fait des photos pour les montrer à un éditeur, et puis la carrière se lance comme ça en finale.
Ah ouais, de ce côté-là, c'était plus simple. Ce serait beaucoup plus difficile aujourd'hui vivre de la photo dans le style Cartier-Bresson, de la photo de reportage, illustrative. Pratiquement impossible aujourd'hui, parce que tout le monde en fait, hein. À l'époque, c'était nouveau. On peut gonfler de dire ça de ma part, mais j'ai été présenté à Magnum. Cornel Capa, le frère de Robert Capa, m'a dit « Tu devrais essayer de voir Magnum. » J'ai donné mon portfolio. C'est Cartier-Bresson, Elliot Hervite et Cornel Capa lui-même qui ont consulté mon portfolio. Mais j'ai fait une erreur. J'avais mis des photos parce que j'étais tout fier, comme je n'avais jamais appris la photo. J'étais tout fier de mes réalisations commerciales en format 20-25 et tout, ouais. Je me suis dit, ça va impressionner. Au contraire, ça les a déstabilisés. Ils ont dit, oh, si vous êtes trop commercial. Je sais pas, ça me semblait trop facile de faire que du reportage, des photos de russes comme ça. Parce que ça, on peut en faire sans arrêt, là. Et surtout, j'aimais bien les jolies choses. La mode, j'ai laissé tomber parce que c'est un travail d'équipe, la mode. On peut pas travailler seul, hein. Il faut Il faut un maquilleur, une maquilleuse, coiffeur, styliste, assistant. C'est pas possible. Moi, j'aime pas travailler comme ça.
Donc, ce que tu dis, c'est que tu as démarré avec la photo de reportage. C'est ça qui t'a lancé.
Oui, oui.
Mais en final, tu préfères la photo de studio, la photo plus...
Non, maintenant, je fais du... je fais la photo de studio pour gagner ma vie, point de vue alimentaire. Hein, parce que quand on est marié puis qu'on a un enfant, il faut quand même boucler son mois. Hein. Et il n'y a pas d'autre solution. Mais maintenant, par exemple, bon, je vais à la retraite. Hein. Je fais un sujet autour de Genève, en extérieur. Là, je suis heureux comme un pas parce que j'ai plus mes 50 kilos de bagages à trimballer. J'ai juste mon petit Nikon que j'ai trouvé assez lourd. Le livre sur l'éclairage, je l'ai fait avec un Leica Digilux, hein, qui était un joli petit appareil parce qu'on pouvait bien faire manuel aussi. On pouvait contrôler tout soi-même. Et puis, quand j'ai commandé mon Nikon D200, les 1,250 kg avec le zoom, oh, je me suis dit, zut, alors ça me paraissait presque trop lourd. Bon, j'ai pris l'habitude maintenant. C'est comme formidable d'avoir juste ça. J'ai qu'un zoom et ça me suffit, je fais tout avec ça. Et j'ai fait quelques essais de photos de nuit à la main, à 400 ASA, avec mon ancien objectif Nikon 50 mm qui ouvre à 1,4. Et là, ça permet de faire des photos de nuit, les enseignes lumineuses, des choses comme ça. Alors je fais attention qu'il n'y ait pas trop de poussière qui rentre dedans.
Oui, c'est bien. Je crois qu'on exagère le problème de la poussière.
Oui, mais il faut être propre, quoi. Moi, je fais ça à la maison, je nettoie bien, j'aspire, tout.
Quand on était en film, on avait des problèmes de poussière aussi. Il fallait faire attention qu'il ne se dépose pas sur le film, etc. Puis maintenant, brusquement, on en fait toute une histoire. Mais je regrette vraiment qu'il n'y ait pas un petit compact sympathique. Et ils ne nous refont plus, hein, ça, maintenant. Quand je fais mes enregistrements, si tu veux, j'ai mon petit enregistreur.
Ouais.
Donc si en plus de ça, faut mettre un D200, tout un bazar, ça fait beaucoup. Moi, je trouve que c'est un peu dommage qu'ils ne refassent plus un petit compact bien, bien fait. Quoi.
Ouais, qui marcherait bien. Franchement, moi, si le Digilux avait eu plus de pixels, meilleure résolution, un plus grand capteur, parce que ça influence aussi la qualité de l'image, j'aurais gardé le Digilux, fait avec le Digilux. J'ai toujours travaillé avec Nikon, j'en suis très content du D200. Là, j'ai vraiment tout ce qu'il faut avec mon ordinateur, un Mac, date quand même de 5 ans. J'ai tout ce qu'il faut pour faire mon prochain bouquin.
C'est vrai que tu as connu depuis la plaque jusqu'au numérique maintenant, ça fait une évolution.
Ah oui.
Et je veux pas faire un débat un peu stérile, mais on entend beaucoup de gens qui ont une nostalgie, qui s'enracinent en disant non, moi je veux absolument de l'argentique, machin, je veux pas autre chose. Qu'est-ce que tu penses de cette espèce de nostalgie qu'on voit parfois?
Moi je suis pas tellement pour, je dois dire, j'ai mis un certain temps avant de me mettre professionnellement au numérique parce que ça a été assez lent quand même au point de vue professionnel. Hein. Ça coûtait très cher. Et puis il y a un moment justement pour ma fabrique de robinets, je vais faire toute une série de photos très rapides. C'était pour illustrer la liste de prix. J'ai proposé aux clients de faire en numérique. Ils ne voulaient pas, voyez. C'était plutôt les clients qui n'étaient pas prêts dans le numérique. Je connais un photographe, pour donner un exemple, qui fait les catalogues pour Christie's, les ventes aux enchères. Ouais. C'est Christie's qui a financé, qui passe au numérique avec un dos pour la Cynar, centaines de milliers d'euros pour ça. Eh ben, les clients n'étaient pas prêts. On pensait qu'on pouvait envoyer au Japon la photo d'une commode Louis XVI, et puis les clients n'étaient pas prêts. Il a fallu revenir à l'argentique, ils sont revenus à l'argentique. Mais ça, c'était 10 ans en arrière, hein. Mais maintenant, il n'y a pas de doute, le numérique a pris même professionnellement de ceux qui travaillent en argentique, ils ont de la peine. Non, mais par contre, je comprends, surtout pour le noir-blanc. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire le tirage noir-blanc. J'avais un copain qui était professeur de photo. On travaillait comme ça ensemble, on faisait nos formules chimiques nous-mêmes, tout ça. Il y a des petites différences, pas énormes, à vrai dire. On prend les bains qu'on trouve dans le commerce, ils sont très bons aussi. On a des bons papiers d'arité. C'est beaucoup plus long à travailler, à sécher, bien plat, tout ça. Mais il n'y a pas doute, il y a une qualité qu'on ne trouve pas. Mais je pense que... Moi, j'aime beaucoup la couleur aussi, hein, parce que je suis très coloriste comme ça. En numérique, l'avantage, c'est qu'on peut faire ses tirages soi-même. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on peut changer les couleurs, les contrastes, tout ça. C'est quand même formidable, le numérique. Hein. Pour présenter ma maquette de mon prochain livre. Le livre que je fais, j'ai déjà fait au moins 4000 photos. L'avantage, c'est le classement aussi. On peut les classer, les indexer, les ressortir par groupe d'index, tout ça. C'est fabuleux. Et c'est beaucoup plus pratique. Je crois que, bon, l'argentique, à part le noir-blanc, tous ces procédés, chacun a son avantage, il n'y a pas de doute. Sinon... Il n'y aura plus personne qui ferait de la peinture, enfin, tout de la photo. Et quand on voit les expositions de peinture, moi je suis toujours émerveillé. Il y a une matière, je suis content de mon Nikon D200, en tout cas je ne viendrai pas à l'argentique.
Henri, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré et puis c'était vraiment une conversation passionnante. À bientôt peut-être.
Oui, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler ensemble. Mais de toute façon, maintenant que je connais ton blog, je vais l'écouter puisque bientôt j'aurai la DSL, ce qui me permettra d'écouter ton blog. Je te remercie pour l'intérêt que tu m'as porté et puis voilà.
Troisième segment, vos commentaires et vos réactions. Pour laisser un commentaire ou un message d'encouragement, visitez le blog www.déclencheur.com. Vous pourrez laisser un message texte, c'est complètement gratuit, ou utiliser la boîte vocale pour laisser un message vocal. Avant de réagir aux commentaires, l'ami Alain Bachelier qu'on avait reçu il y a quelque temps sur Déclencheur me signale avoir lancé un groupe de discussion sur ces fameux objectifs 18-200. Je sais que c'est un type d'objectif qui intéresse un certain nombre d'entre vous, donc je remettrai l'adresse sur le blog. Alors, pas mal de messages d'encouragement reçus de Bertrand, Valentino, Arnaud, Titux, Didier, Topix, Jean-Michel Sanglera, Domi et Lololo02. Gabs veut compléter l'épisode justement sur les accessoires photo peu coûteux avec une série de liens repris sur Virus Photo, Do It Yourself Photography et Strobist. Sur l'épisode de Volker Gilbert, on avait discuté d'une série de critères pour choisir un dérotiseur. Pep ajoute un critère qui effectivement peut être important, c'est la qualité du service après-vente. Visiblement, il a des difficultés avec DxO, qu'il avait pourtant installé en version test sans aucun problème, et le support n'arrive pas à le dépatouiller. C'est malheureusement le cas pour de plus en plus d'éditeurs de logiciels. On a malheureusement une qualité de support qui n'est pas toujours à la hauteur du produit. Gabriel qui poste une réflexion sur le sujet de calibrer l'écran, donc l'interview avec Emmanuel Lafond de Profil ICC, il dit « Tiens, mais est-ce que l'écran d'un appareil photo est calibré ?» Ce qui ne pourrait pas l'être. Parce que ça pourrait nous permettre, avec l'augmentation de la taille, de la définition, de se passer de la moulinette logicielle, le traitement RAW. Alors, il me demande ce que j'en pense, si j'ai des infos à ce sujet. La seule info que j'ai, c'est que les écrans des appareils photo ne sont pas calibrés. Je ne connais aucun produit qui permet de les calibrer, le logiciel embarqué ne le permet pas. Jusqu'à une semaine, j'aurais dit, et puis de toute façon, il y a un énorme problème d'interface utilisateur, parce que si l'interface des appareils photo est très bien conçue pour prendre une photo, il faut reconnaître que les menus et la manip qui va autour, ça le fait pas, quoi. Clairement, c'est une compétence que les fabricants d'appareils photo n'ont pas encore. Et je crois d'ailleurs que c'est pour ça que d'autres sociétés viennent et proposent justement du workflow qui alors se réalise sur l'ordinateur. Et puis, j'ai envie de dire que j'ai vu le futur. Je tiens en main, en fait, maintenant. J'ai acheté la semaine dernière un iPod Touch. J'avais besoin d'un iPod avec une capacité vidéo pour faire une démonstration. Et j'ai été bluffé. Je peux imaginer un Lightroom ou un Aperture fonctionnant avec ce type d'interface. Je ne serais pas arrivé à l'imaginer avec aucun autre des paradigmes d'interface, y compris d'ailleurs tous les autres écrans tactiles. Alors il va falloir un peu de temps, évidemment, pour que ce type de changement se répande, pour qu'on le trouve sur nos appareils photo. Mais c'est vrai que brusquement, je pourrais imaginer un système embarqué, c'est-à-dire intégré à l'appareil photo, qui permettrait de faire de la retouche. Et pour revenir un instant sur l'iPod Touch, inutile de laisser en commentaire le fait que il y a des limitations, il est cher, l'iPhone est mieux, etc. Vous avez parfaitement raison sur tous ces points. L'iPhone, il n'est pas en Belgique et ne va pas y être bientôt. Mais c'est vraiment le changement de paradigme qui est passionnant. Le fait d'avoir introduit une nouvelle manière d'interagir avec l'appareil et qui laisse présager de nouveaux logiciels. Donc, c'est un peu le geek qui parle. Hein. Et ce type d'appareil est forcément terriblement frustrant parce que ce qui fait surtout, c'est ouvrir votre imagination. L'ayant vu, on se dit mais Aperture pourrait tourner là-dessus. Pourquoi est-ce qu'Aperture n'est pas déjà disponible? Mais sincèrement, il se passe quelque chose. Ma fille, elle n'a même pas 3 ans, a su l'utiliser en une minute sans que papa ait rien à lui montrer. En une minute, elle avait lancé Shakira, qui est sa chanteuse préférée. Elle l'avait trouvée, elle l'avait lancée. Voilà, j'en reste là parce que je ne vais pas vous faire un épisode sur l'iPod Touch, mais pour répondre à Gabriel, on peut espérer que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ce type d'interface se généralise, s'introduit sur nos appareils photo, et alors à ce moment-là, je crois qu'on pourrait effectivement envisager de commencer à réfléchir en termes de retouches embarquées sur l'appareil photo. Guillaume Singer s'interroge sur la sensibilité des capteurs numériques. Donc en argentique, bien évidemment, pour rendre les films plus sensibles, on met des grains d'argent plus gros. Mais en numérique, le capteur, la taille des pixels ne change pas, donc comment est-ce que la sensibilité change? Alors c'est un peu technique, mais en fait on amplifie le signal. Exactement comme on fait avec du signal audio, il est transmis à un niveau très faible et puis on met un amplificateur derrière, un ampli, pour monter la puissance du signal. Et c'est de là que vient le bruit numérique, parce qu'en amplifiant le signal, eh bien on amplifie également forcément le bruit résiduel du capteur. Donc ça veut dire que chaque capteur a une sensibilité propre, par exemple son ISO, et si on règle le capteur sur 200 ISO, on a amplifié deux fois le signal. Guillaume demande également comment est déterminée la correspondance entre la sensibilité numérique et la sensibilité argentique. Il y a en fait une norme ISO, je ne suis pas certain d'ailleurs qu'elle est finalisée, mais donc il y a une norme qui donne des règles de mesure et les constructeurs suivent ces règles de mesure. Sur le duo vidéo, l'interview de Laurent Fabry, vous avez été plusieurs à réagir, Katsura, Franck Doyen, Photoman et Falae. Globalement, vous n'êtes pas d'accord sur l'intérêt de réaliser une vidéo pour ce genre de choses. Je vous l'ai dit, la raison d'être de cette vidéo, c'est aussi de nourrir notre réflexion en se disant, tiens, mais comment et pourquoi intégrer de la vidéo dans le podcast? Donc vos différentes réflexions sont extrêmement intéressantes. Sur le fond de l'interview, une discussion entre Jean-Baptiste et Laurent. Jean-Baptiste trouvant qu'un service comme Photosapiens, c'est très cher et qu'on peut bien moins cher acheter de l'hébergement auprès d'un hébergeur comme OVH, installer un CMS et on obtient un résultat tout à fait satisfaisant. Laurent répond que la valeur ajoutée de son service est d'offrir un package qui est directement adapté aux besoins des photographes. J'ai pas d'opinion sur la qualité du service Photosapiens parce que je ne l'ai pas essayé. Ce qui m'intéressait dans cette rencontre, c'est la réflexion sur la photo en ligne. On a eu une assez longue conversation avec Laurent. Globalement, tous les deux, nous déplorions le fait que malheureusement, les acteurs de la photo, c'est-à-dire tant les marques photo d'ailleurs que les photographes professionnels, n'ont pas encore vraiment intégré l'outil Internet et ne sont pas vraiment en ligne là où malheureusement leurs consommateurs sont. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tant que consommateur de matériel photo, je ne suis pas vraiment content de la présence en ligne de la plupart des marques photo. Et généralement, c'est sur d'autres sites que je vais chercher l'information dont j'ai besoin. Et c'était tout l'intérêt de ce sondage, d'avoir essayé de mesurer justement ce phénomène sur Internet. Et clairement, la plupart des photographes le disent, Internet est un outil incontournable, et malheureusement, ils n'y sont pas. Et les marques n'y sont pas non plus. Sur le mini trépied, diverses réactions. Une réaction de Mouche qui dit que même avec un trépied bon marché, il arrive à faire des photos tout à fait satisfaisantes. Je crois me souvenir que Mouche utilise un compact et ça rejoint ce que je vous disais. Ils font un trépied d'une stabilité satisfaisante par rapport au matériel qu'on met dessus. Et c'est vrai que les compacts ne sont pas très exigeants parce qu'ils sont légers et ils n'ont pas de miroir. Donc ils sont beaucoup moins sujets aux vibrations que les réflexes. Godzilla demande quel trépied choisir. Il y aurait matière à faire un épisode complet, donc désolé, je ne saurais pas répondre là maintenant. Deux commentaires d'Eric Constantino. Le premier pour nous rappeler la vieille règle 1 sur la focale égale la vitesse maximale à laquelle on peut travailler. J'avais présenté cette règle en détail sur la vidéo « Choisir ses objectifs ». Et le deuxième qui est pour nous signaler qu'un trépied fait un excellent outil d'autodéfense. Et justement, il a eu l'occasion de le vérifier récemment lors d'une sortie photo. Sur ce même épisode, qui est le premier où j'ai annoncé l'enregistrement de la centième, Katsura et Greg me disent « Tiens, mais pourquoi enregistrer à Paris plutôt qu'enregistrer en Belgique ?» La réponse, elle est très simple. L'audience belge, elle est marginale. On a 75% d'audience française. Donc pour être franc, c'est même pas une question qu'on s'est posée quand on a décidé d'enregistrer la centième en public. Et pour conclure, deux commentaires de Photoman et de Julien concernant la publicité. Photoman qui regrette énormément qu'on passe un petit message publicitaire pour nos sponsors dans le cadre de la centième. Il dit préférer un podcast amateur modeste plutôt qu'une émission pro et commerciale. Tout en ayant d'abord précisé qu'il écoute le podcast depuis très longtemps, et c'est vrai que Photoman, c'est un nom qu'on retrouve dans la section commentaires, et en précisant également qu'il trouve le travail digne d'un pro de la radio. Mais je crois que la réalité, elle est là. J'aime pas faire les choses à moitié, c'est mon caractère. On peut dire que c'est une qualité ou un défaut, mais peu importe. Je me dis aujourd'hui qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qu'on pourrait faire avec Déclencheur, qui je crois nous donneront des émissions qui seront passionnantes à réaliser, passionnantes à écouter, mais qui ont effectivement besoin d'un peu plus de moyens que ce qu'on a aujourd'hui. Encore une fois, je ne suis pas convaincu personnellement que la publicité est la meilleure formule. Il y en a un certain nombre qu'on explore, et la publicité est une des solutions qu'on explore. Et très concrètement, pour la centième, on ne pourrait pas la réaliser si on n'avait pas le soutien de nos partenaires. Julien ajoute deux commentaires. Le premier étant de dire qu'à son avis, une page de publicité, comme on en trouve en radio, n'a pas beaucoup de pertinence en podcasting, puisque forcément avec la molette, on aura vite fait de passer au-delà. Je réponds par une boutade, mais aujourd'hui, je ne suis absolument pas à discuter de l'efficacité de la publicité sur le podcast, parce que les gens que je rencontre sont à une réflexion qui est beaucoup plus « c'est quoi un podcast ?». Donc on parlera d'efficacité bien après. Julien ajoute qu'il est impératif que la ligne éditoriale de Déclencheur soit indépendante de la pub. Donc quand on parle d'un produit, on en parle avec franchise. Ça va sans le dire, mais c'est vrai que c'est mieux en le disant. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur le blog www.déclencheur.com. S'abonner à un podcast est complètement gratuit. L'abonnement signifie simplement que vous recevez les épisodes au fur et à mesure. Tous les renseignements sur le blog www.déclencheur.com. À bientôt !